Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. K-pop Demon Hunters, pour les fans, est un album illustré officiel en français, publié sous l'égide de Netflix et destiné aux enfants à partir de 3 ans. Il prolonge l'univers du film d'animation K-pop Demon Hunters dans un format bref et visuel, plutôt que de proposer une novélisation développée ou un livre d'activité. Son point de départ est la double identité de Rumi, Mira et Zoé, vedettes de K-pop sur scène, elles deviennent chasseuses de démons lorsque le monde est menacé. L'album réunit également leurs adversaires, les Saja Boys, ainsi que des personnages secondaires tels que Derpy le Tigre et Sussy la Pie. Sa fonction première est donc la découverte ou la familiarisation avec les figures, les codes graphiques et l'imaginaire du film, grâce à des illustrations stylisées et accessibles. L'ouvrage s'adresse autant aux jeunes enfants qui rencontrent cet univers qu'aux familles souhaitant offrir un prolongement tangible. Simple et officiel à une œuvre d'animation appréciée. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une double vie qui relie spectacle musical et aventure fantastique, le cœur identifiable de K-pop Demon Hunters pour les fans, réside dans le contraste entre la vie publique et la mission secrète de ces héroïnes. Rumi, Mira et Zoé sont présentées comme des stars de la pop le jour et des chasseuses de démons la nuit. Cette opposition donne au livre une structure imaginaire immédiatement compréhensible pour de jeunes lecteurs, le monde brillant de la scène. De la musique et des idoles côtoient un registre fantastique où il faut protéger les autres d'une menace surnaturelle. L'album ne semble pas conçu pour détailler les règles du combat contre les démons ni pour développer une intrigue autonome longue. Il met plutôt en valeur le principe qui singularise la franchise, les compétences de performance et l'esprit de groupe associé à une aventure de protection. Pour un enfant, cette coexistence de deux univers favorise une lecture visuelle claire, fondée sur des identités reconnaissables et des changements de rôle. Pour les adultes accompagnateurs, elle explique aussi pourquoi l'objet dépasse le simple produit musical, la K-pop sert de cadre esthétique à un récit d'action fantastique. Le livre conserve ainsi un accès doux à des motifs de danger en les intégrant à une présentation colorée, courte et adaptée à un public très jeune. Deuxièmement, Rumi, Mira et Zoé, la dynamique d'un trio féminin au centre de l'album, le choix de centrer l'album sur Rumi, Mira et Zoé est essentiel à son positionnement. Elles ne sont pas présentées uniquement comme des chanteuses célèbres. Elles forment un groupe dont l'action collective est indissociable de leur rôle de chasseuse. Dans un album illustré destiné dès 3 ans, un trio permet de multiplier les silhouettes, les tempéraments visuels et les situations sans exiger du lecteur qu'il suive une distribution trop vaste. Le livre semble ainsi privilégier la reconnaissance des héroïnes et de leur univers à la complexité narrative. Cette orientation est cohérente avec un ouvrage de 24 pages, l'enjeu est de rendre les personnages familiers, de donner envie de les retrouver à l'écran ou dans d'autres titres officiels et de soutenir une lecture partagée. La présence de trois protagonistes féminines actives distingue également l'album de nombreux produits dérivés où les héroïnes restent spectatrices d'une intrigue. Ici, elles sont à la fois artistes et protectrices. Il serait excessif d'en déduire un portrait psychologique approfondi de chacune, car les informations disponibles décrivent avant tout un album de présentation. En revanche, le livre offre clairement un imaginaire de coopération, la scène comme la lutte contre les démons repose sur un ensemble plutôt que sur un héros isolé. Troisièmement, les Saja Boys installent un affrontement entre apparences séduisantes et menaces cachées. Les Saja Boys constituent le principal contrepoint aux héroïnes dans la présentation de l'univers. Décrit comme un groupe de garçons très en vue, mais également comme des démons déguisés. Ils introduisent une idée simple et forte, ce qui attire ou impressionne n'est pas nécessairement inoffensif. Dans le cadre d'un livre pour jeunes enfants, cette opposition fonctionne surtout comme un ressort de fiction, non comme une leçon morale complexe. Elle permet d'identifier rapidement les deux camps et de donner une tension à l'univers sans s'attarder sur des scènes inquiétantes. Elle met aussi en miroir deux formes de popularité d'un côté, Rumi, Mira et Zoé, artistes qui protègent. De l'autre, les Saja Boys, dont l'image de groupe à succès masque leur nature hostile. Ce miroir est particulièrement adapté à la culture pop mobilisée par la franchise, où costumes, présence scénique et célébrité façonnent les premières impressions. L'album peut donc aider les jeunes fans à replacer les personnages dans les relations fondamentales du film allié, adversaire et menace démoniaque. Il ne faut toutefois pas le confondre avec le roman officiel ou le roman graphique, format plus approprié pour explorer les enjeux narratifs du conflit. Sa contribution est d'en proposer une entrée visuelle condensée et rassurante. Quatrièmement, des personnages secondaires conçus comme repères affectifs et visuels. La présence annoncée de Derpy le Tigre et de Sussy la Pie élargit l'album au-delà de l'opposition directe entre les héroïnes et les Saja Boys. Dans un livre d'initiation illustré, ces figures secondaires ont une fonction concrète, elles diversifient les images. créent des repères facilement mémorisables et rendent un univers fantastique moins abstrait pour les plus jeunes. Les animaux ou créatures distinctives facilitent souvent la conversation. Pendant une lecture accompagnée, l'enfant peut les nommer. Les retrouver dans les illustrations et les associer au monde de K-pop Demon Hunter sans devoir retenir toute l'intrigue. Leur inclusion signale que l'ouvrage cherche à offrir une vue d'ensemble de la franchise plutôt qu'un résumé strictement centré sur l'action principale. C'est aussi un trait qui le rapproche d'un album de découverte de personnages. Les informations disponibles ne permettent pas d'attribuer à Derpy ou Susie des rôles détaillés dans chaque séquence du livre. Il serait donc imprudent de leur prêter des actions précises. Leur intérêt est surtout éditorial et pédagogique, ils contribuent à une lecture par reconnaissance, adaptée au petit format et à l'âge recommandé. Pour les enfants déjà familiers du film, leur apparition renforce le plaisir de retrouver des personnages appréciés. Pour les nouveaux lecteurs, elle ouvre l'univers sans surcharge textuelle. En dernier lieu, un album de découverte distinct des adaptations longues et des cahiers d'activité, le positionnement de Pour les fans doit être compris à partir de son format. L'ouvrage est présenté comme un album relié de 24 pages avec des illustrations cute, stylisées et colorées, destinées dès 3 ans. Il ne remplit donc pas la même fonction qu'un roman officiel, une adaptation graphique du film ou un livre d'activité. Un roman peut développer les événements et les motivations. Un cahier de jeu invite à manipuler, colorier ou résoudre des exercices. Cet album privilégie, lui, la rencontre avec les personnages et l'immersion visuelle. Cette distinction est utile pour éviter une attente inadaptée. Le lecteur n'y cherchera pas une restitution exhaustive du scénario du film. En revanche, il peut y trouver un support de lecture à voix haute, une première approche de l'objet livre et un prolongement accessible d'un univers audiovisuel. Le choix d'une édition française officielle ajoute un élément pratique pour les familles francophones. Les références de la franchise sont proposées dans un cadre linguistique, directement lisible par l'enfant et l'adulte. Sa brièveté peut aussi devenir un avantage dans la lecture du soir ou en médiathèque, car elle permet une découverte complète sans engagement prolongé. L'album se distingue ainsi moins par une ambition narrative autonome que par la clarté de sa médiation entre le film, ses figures emblématiques et un très jeune public. En conclusion, K-pop Demon Hunter pour les fans convient d'abord aux enfants des 3 ans attirés par les images colorées, la musique pop et les aventures fantastiques, ainsi qu'aux jeunes admirateurs du film qui souhaitent retrouver Rumi, Mira, Zoézé et les autres figures de cet univers hors écran. Il peut également servir aux parents. Bibliothécaires et enseignants comme support de lecture, accompagner sa forme courte invite à nommer les personnages, commenter les images et distinguer les rôles de chacun. Le bénéfice attendu n'est pas l'analyse approfondie de l'intrigue ni l'apprentissage d'informations sur la K-pop réelle. Il réside dans une entrée accessible dans la lecture, fondée sur une franchise déjà familière et sur des repères visuels forts, par rapport à une novélisation ou à un roman graphique. Cet album se démarque par son orientation préscolaire et par sa concentration sur la reconnaissance de l'univers plutôt que sur le déploiement détaillé de l'histoire. Par rapport à un cahier d'activité sous licence, il privilégie une expérience de livre illustré « on le lit et le regarde » au lieu de le compléter. Son statut officiel apporte enfin une cohérence avec les personnages et le cadre du film, ce qui compte pour les collectionneurs comme pour les enfants attachés à l'œuvre d'origine. Il faut néanmoins l'aborder pour ce qu'il est un bref prolongement visuel, conçu pour divertir et familiariser, non une adaptation exhaustive. C'est précisément cette simplicité, adaptée à l'âge visé, qui constitue sa différence dans la gamme des livres dérivés de K-pop Demon Hunters. Si vous souhaitez soutenir Netflix, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.